L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention. L'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Tout ça, cette lettre, ces portes fermées, ses vêtements, ce sang, tout lui dit qu'il y a quelque chose. Et tout à coup, il se souvient de ce que lui a dit son voisin. Après une nuit agitée, il se dit que c'est son devoir de tout raconter à la police. Sa locataire l'a réveillée comme la première fois. Elle va ouvrir les volets. Elle a posé le petit déjeuner sur le lit et s'assoit près du lit. Et elle caresse la couverture. Il voit que sous sa blouse, il n'y a qu'un soutien-gorge, que les deux boutons du haut de la blouse ne sont pas fermés. Et ses cheveux ont eu un coup de peigne. « Vous avez passé une bonne nuit ?»« Oui, merci. » Vous pensez à la locataire ? Non, je faisais simplement du souci à cause de ses vêtements, mais comme vous dites qu'elle les a laissés volontairement. Une fois qu'il est fini de déjeuner, il attend qu'elle parte pour pouvoir se lever, mais elle reste assise à le regarder. Si vous permettez, je vais faire ma toilette. Et elle le quitte à regret. Une demi-heure plus tard, il sort de chez lui pour aller au commissariat de police et rentre au commissariat. Qui est dans une petite maison grise de deux étages. Un agent s'approche de lui. Vous désirez, monsieur ? J'aimerais parler au commissaire. Asseyez-vous. Il s'assoit sur une banquette. Puis l'agent revient vers lui. Il se lève. Et suit l'agent qui le mène au premier étage. Puis le faire entrer dans une petite pièce. Où se trouve un petit bureau, un petit homme sec avec des cheveux noirs. Il porte un costume noir. Vous désirez me parler, monsieur ? Je vous écoute. Asseyez-vous. Frédéric s'assoit. Tout d'abord, donnez-moi votre nom. Frédéric Lemort. Je suis venu ici car je crois que ma locataire que je remplace a disparu d'une façon bizarre, étrange. Et il raconte au commissaire tout ce qu'il sait. Une fois qu'il est fini,
ce que vous me racontez là est bien étrange. Vous mettez en cause une personne honorable et très estimée. J'aimerais, c'est avant de faire procès verbal, faire une petite enquête. Je ne veux pas nuire à certaines personnes.
Il regarde sa montre.
Si vous permettez, nous allons aller ensemble chez votre propriétaire.
Il se lève. Frédéric aussi. Il quitte la pièce. Ils arrivent tous deux chez la propriétaire. Les manches retroussées, un tablier blanc sur sa blouse tachée. Sur la table de la cuisine se trouve un poulet qu'elle était en train de vider.
Madame Claude, c'est votre nouveau locataire, ça ?
Oui, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il s'occupe de ce qui ne me regarde pas. J'ai bien envie de le coffrer, mais je crains que cela puisse vous gêner pécuniairement.
La vieille regarde Frédéric et dit
« Vous avez raison. Laissez-le moi quelques mois. J'ai besoin de revenus. »
« Bien. »
« Ne vous en faites pas. J'aurai l'œil sur monsieur. Il n'aura qu'à bien se tenir. Sinon... »
Il prend un grand couteau et tranche le cou du poulet.
Je vois que je peux vous faire confiance.
Et comment ? Vous avez vu avec l'autre ?
Bien, je vous laisse.
Et il les quitte. Frédéric ne sait que faire. Il aimerait partir lui aussi. La vieille le regarde et lui dit :
Eh bien ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Allez, sortez !
Et tenez-vous tranquille. Il veut dire un mot d'excuse. Madame, je...
Ne vous en faites pas. Je vous ai à l'œil.
Et Frédéric sort. arrivé chez lui ne sait pas que penser de tout cela. Il s'assoit sur une chaise. En y réfléchissant bien, il trouve le comportement du commissaire et de la logeuse comme s'ils étaient de connivence. Oui, des complices. Il sait maintenant que quoi qu'il puisse lui arriver dans cette ville, il ne pourra compter sur la police. Et comment va-t-il se comporter avec sa logeuse? Comment la logeuse va se comporter avec lui? Ne l'a-t-elle pas menacé? Il ferait mieux de déménager. À partir de ce jour, la vieille entre en faisant claquer la porte fortement et sort de la même façon. Le matin, elle lui apporte toujours son petit déjeuner. Le plateau est moins fourni et le café est plus de l'eau chaude qu'autre chose. Elle ne lui a rien mis, ni sucre, et le morceau de pain est rassis. Il n'ose rien dire. Elle va ouvrir les volets avec fracas. Elle ne tire pas les rideaux et regarde autour d'elle sans gêne. Elle pousse sa curiosité jusqu'à lire les feuilles qui sont sur la table. Elle ne s'assoit plus et regarde le lit avec tristesse en soupirant. On dirait qu'elle regrette quelque chose ou quelque chose qui aurait dû se passer. Elle reste debout devant le lit à attendre qu'il finisse pour reprendre le plateau. Une fois qu'il est fini, elle prend le plateau brusquement et s'en va sans mot. Cette scène qui se reproduit chaque matin le met mal à l'aise. Il aimerait lui dire de ne plus venir, que son café, il s'en chargerait tout seul. Mais n'ose pas, elle l'intimide trop. Oui, elle l'intimide trop. Chaque jour, il va à l'université. Les classes des amphithéâtres sont remplies qu'à moitié de jeunes gens, mornes, silencieux, restant chacun à leur place. Les professeurs débitent leurs cours sans originalité, d'une façon morose. Frédéric regrette beaucoup de ne pas s'être fait inscrire dans une autre ville. À Lyon, Grenoble ou ailleurs, où la vie aurait été plus gaie. Après ses cours, Frédéric rentre directement chez lui à pied. Il ne traîne pas, puisque le centre-ville est sans intérêt. À part des magasins, il y a un vieux cinéma presque délabré qui passe de vieux films d'aventure et un café bistrot genre années 50. Vieux, rempli de gens à casquettes, enfumés. Quelquefois, Frédéric y va pour boire une bière. Mais il ne reste pas, car les gens le dévisagent tous. Il y a aussi la bibliothèque qui se trouve dans le sous-sol de la mairie. Deux pièces tout en longueur, avec des rayonnages en bois. Le jour vient de petites lucarnes en hauteur, d'où l'on voit les jambes des passants. Frédéric y va, mais ne reste pas, c'est trop lugubre, et les gens lui donnent froid dans le dos. Donc, il étudie chez lui. Chez lui, après avoir étudié, il met son petit poste de radio en marche, en sourdine. Mais comme il capte mal les ondes, il place plutôt son temps à lire. Vient souvent le visiter. Il est à la fenêtre et voit qu'il a neigé. Dehors, c'est un champ tout blanc avec un tronc d'arbre noir. Ce blanc et ce noir, cette forme biscornue, noir rend le paysage lugubre. Il voit aussi des taches de sang sur la neige. Cela le gêne, ça fait sale. Il aimerait les effacer, mais il sort toujours de son rêve angoissé. Il n'arrive pas à savoir pourquoi son angoisse encore plus pas savoir pourquoi. Dans son allée. Tais pas, je frappe à des grands coups. Des cris. Intrigué, il va ouvrir. Les voix qui se battent, son voisin de palier qui se débat avec trois policiers en uniforme. Même dès qu'il voit Frédéric, avec de grands coups secs, arrive à se dégager et court vers Frédéric.
Ne me laisse pas aller, me tuer. Tu n'as pas le droit. Je suis dès lors.
Le policier arrache l'œuvre de Frédéric et le pousse dans les escaliers. Frédéric, surpris, leur crie.
Où le menez-vous ?
Le policier lui répond.
Dans le sort de ce pays de cauchemar. Tu n'as pas envie de sortir toi aussi de ce pays? Si tu veux, on te fait te mettre de l'autre côté. Si tu veux.
Et l'homme se met à rire d'une façon diabolique. Frédéric les entend descendre. Ils sont sortis de l'allée, puis c'est le silence. Apparaît en bas de l'escalier la tête de la logeuse qui tend le cou pour le voir. Frédéric entre chez lui. Il est en sueur et ne sait que penser de tout ceci. Ce n'était que ses cours à l'université, il quitterait bien tout ça. Une nuit, il est réveillé par des coups que l'on donne en cognant contre une porte. Effrayé, il se lève et va ouvrir la porte du palier. Non, ça ne vient pas du palier. S'aperçoit que ces bruits, cris, sortent de derrière la porte condamnée. Et à chaque fois qu'il y a un coup dans la porte, ça la fait vibrer. Il y a quelqu'un derrière cette porte? Pas de réponse. Et les cris et les bruits continuent. Frédéric essaye d'ouvrir la porte en tournant plusieurs fois la poignée et en essayant d'ouvrir avec des clés. Il a peur, et en même temps il veut aider, car il sent qu'une personne est en danger. Les cris deviennent horribles. On dirait que l'on égorge une personne. Frédéric essaye d'enfoncer la porte avec son épaule. Mais elle ne bouge pas. Jeffrey essaie encore une fois. Il s'est arrêté dans son élan car il vient de voir que sort du sang. Oui, un liquide rouge qui sort de derrière la porte. Et ce doit être du sang. Puis, plus rien. Plus de bruit. Frédéric est effrayé. Se superpose le sang de la neige et celui-là. L'angoisse revient, beaucoup plus fort. Il sent une grande douleur au poignet gauche. Sa bouche se sèche. Sa vue se trouble. Ses jambes ne tiennent plus. Tout tourne. Tout tourne. Il tombe. Noir. Puis blanc. Puis rouge. Puis bleu. Puis lumière à flèche. Des échos. Puis noir. Puis détente. Il reprend ses esprits, allongé sur le plancher. La lumière du jour a rempli la pièce. Il se lève, courbaturé. Mais bien, comme une personne qui a passé un séjour en maison de repos, il se dit qu'il a dû rêver tout ça et va se coucher. Une demi-heure plus tard, sa logeuse lui apporte le café. Une fois qu'elle est partie, il se lève. Se lave, et s'habille. En prenant son cartable à terre pour aller à l'université, il voit sur le plancher, vers la porte condamnée, de nouvelles taches de sang. Pas un rêve. Que faire? Aller à la police? Vu comme la police réagit ici, vaut mieux pas. Alors quoi? Chercher un appartement? Les gens se méfient. Ils sont méfiants. Ils ne veulent pas louer à un étranger. Vais-je vivre à côté d'un cadavre, peut-être? J'ai peur, je ne dois pas le montrer. C'est peut-être pour me faire partir. Tout ça, Un jour, Frédéric, en sortant de l'université, il croise une jeune fille dans les 20 ans, habillée d'une gabardine grise. Elle est blonde, les cheveux longs, et pâle, pâle comme une malade. Il est ébloui par elle, malgré sa pâleur. C'est une douce apparition dans ce monde gris, triste. Il se met à la suivre. Tout un moment, elle s'arrête sur un pont et se penche pour regarder l'eau. Il se met à côté d'elle et en fait autant. Une eau grise, épaisse, laide. Il se met à dire en regardant l'eau, comme c'est laid. Elle lui répond en regardant l'eau, oui. Il lui dit, comme cette ville. Il la regarde, elle le regarde et sourit. Il lui dit, je vous paie un café. Oui, je veux bien.
Mademoiselle Potemont.
Et elle le suit de l'autre côté du pont, où se trouve un café, plutôt bistrot. Ils y rentrent. Il y a du monde, mais ils réussissent à trouver une place tranquille près de la fenêtre. Ils se sont assis, l'un en face de l'autre. Ils voient de la fenêtre un bout de vue, la rue pavée et un coin hostile où se trouvent amarrées les péniches. Il lui dit, on se croirait dans un port. Un garçon s'approche, un gros homme avec un tablier bleu et une casquette grise. Il commande deux cafés. Il lui dit, je m'appelle Frédéric Lemort. Moi, ici Génie. Il lui demande, vous habitez la ville? Oui, depuis toujours. Moi non, je viens d'arriver. Je suis ici pour mes études. Je vis dans une pièce que j'ai louée à une logeuse, une femme très antipathique.
Je venais juste m'acheter des cigarettes.
Viens t'asseoir avec nous.
Et vous? Je vis chez mon grand-père, un vieux monsieur, ancien professeur de sciences humaines. En ce moment, il fait des recherches sur la ville.
On était justement en train
son histoire, ses habitants.
Simone?
Il s'appelle Frésidis. Il est malade. C'est son travail qui le fatigue beaucoup. J'aimerais qu'il arrête, mais il ne veut pas. Boive une gorgée en silence. Voit que dehors, le soir commence à tomber. Elle lui dit, je m'ennuie dans cette ville. Il lui dit, pourquoi ne partez-vous pas? Je ne le peux pas de moi-même. J'ai connu la personne qui était dans votre chambre avant. Avant vous. Comment cela? Je ne vous ai pas donné mon adresse. Tout se sait ici. Et puis les étrangers sont si rares.
Salut, comment ça va?
Elle savait trop de choses, vous savez. Mais elle n'a pas disparu.
Viens t'asseoir avec nous.
Où est-elle? Elle est morte. Vous voulez sa photographie?
Salut.
Oui.
Salut.
Elle ouvre son sac et en sort un portefeuille en cuir marron. L'ouvre et lui tend une photo. Puis le quitte précipitamment. Il regarde la photographie. C'est une jeune fille blonde, de beaux cheveux longs, le visage clair. Elle porte une robe claire aussi. Elle est de côté, mais son visage fait face à l'appareil. Il la trouve très belle et est même troublé par son visage. Qui pourrait en vouloir un aussi joli visage? Dans la nuit, il rêve à la jeune fille qui lui sourit. Thank you. Le lendemain matin, en sortant de chez lui, la porte de l'appartement de la chambre d'en face de chez lui s'ouvre. Et apparaît sa logeuse avec un homme habillé en uniforme de la police. Il est grand, fort, dans les 50 ans, une tête bien carrée, les cheveux bruns courts, de grands yeux bleus et des lèvres gourmandes. La propriétaire, qui a les clés de l'appartement à la main, lui dit « Frédéric descend les escaliers tout en les entendant. Je suis bien heureuse que ça vous ait plu. J'aurais pu tranquille de vous avoir dans la maison. »
« Oh, ça, ne vous en faites pas. Je serai votre chien de garde. Alors, nous signons le bail. »
Oh, entre amis, je vous fais confiance. Cela fait si longtemps que nous nous connaissons. Voici les clés. »
Frédéric sort de l'immeuble en se disant qu'il sera bien surveillé. Ses cours en fin d'après-midi, sur le chemin du retour, il voit devant lui la jeune fille d'hier. Il la croise et lui dit « Bonjour, bonjour. » Elle continue à marcher d'un pas rapide.
« Non, non !»«
M'avait quitté bien rapidement hier. J'avais affaire. Je suis très prise, vous savez. Nous ne pouvons pas nous parler. Seulement si vous acceptez de venir chez mon grand-père. » Il lui dit « Mais, je vous invite, bien, mais je ne veux pas déranger, vous ne dérangerez pas du tout. Grand-père sera très heureux d'avoir de la visite, bien, et il la suit. »
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Une rue aux maisons un peu plus cossues qu'ailleurs, mais toujours aussi tristes, elle le fait entrer dans une allée. Elle est sombre, mais les escaliers sont de pierre. Il monte jusqu'au troisième étage. Et là, elle va sonner à une porte. Ils attendent quelques minutes. C'est un petit homme maigre, le visage osseux, cheveux blancs, porte une robe de chambre en soie bordeaux.
Grand-père, je me suis permis d'inviter un ami, Monsieur Frédéric Lemort.
Enchanté, jeune homme. Je vous en prie, rentrez.
Ils entrent et ils ferment la porte. Couloir sombre, tapisserie bordeaux. Il ouvre une porte du couloir pour les faire entrer au salon. Pièce sombre, les volets sont fermés, lampes et plafonniers éclairés, meubles 1900.
Asseyez-vous.
Ils vont s'asseoir sur des fauteuils. Ils sont autour d'une table basse.
Je suis très heureux que ma petite fille m'amène un de ses amis. N'avons pas de visite.
Frédéric est étudiant.
Et en quoi ?
Études de lettres.
C'est bien ça. Moi, je faisais des recherches. Et je continue. Mais c'est difficile. Maintenant, je fais des recherches pour moi. Mais sur la ville, ça n'avance pas. Personne ne veut m'aider. Et je piétine. Même la mairie refuse de m'aider. J'ai l'impression que l'on veut pas que je découvre quelque chose de secret. L'on me cache des documents. On les falsifie même. Comme si l'origine de la ville cachait quelque chose de tabou, d'horrible, peut-être. Mais j'y arriverai. Je trouverai la clé de ce mystère. J'ai ma petite idée. Dans les armoiries, peut-être, de la ville. Et le sous-sol de la cathédrale. Enfin, nous verrons. Et vous ? Vous n'êtes pas d'ici ?
Non.
D'où ?
D'où ? Excusez-moi, mais j'ai un trou de mémoire.
Ah, je vois. Vous restez à manger avec nous. Nous parlerons des Mérovingiens. C'est aussi mystérieux que cette ville.
Et ils passent tous les trois la soirée ensemble agréablement. Puis Frédéric s'en va. Avant de partir, il promet de revenir. La jeune fille, en guise de revoir, lui donne un baiser sur la joue.
Thank you.
sent le pépitcha. Il appuie sur la minuterie qui éclaire une lampe jaunâtre contre le mur au-dessus des boîtes aux lettres de toutes formes. Il monte les escaliers en pierre qui sent l'humidité. La rampe aussi, mais ne s'en sert pas. Premier étage, il y a deux portes. Il va vers celle de droite pour sortir son trousseau de clé et ouvrir la porte. Il est clair, c'est une pièce au mur gris, une fenêtre où est tendu en gris, en guise de rideau, un chiffon rouge, un lit en face dont les draps et les couvertures sont défaits, lampe de chevet. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.